Europe 1, en balade avec Pierre Gagnaire. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est avec Pierre Gagnaire que nous partons en balade aujourd'hui. Le Mozart des fourneaux, comme on l'a surnommé, le pape du constructivisme culinaire, celui qui a inversé les données de la cuisine traditionnelle, une star internationale donc avec des restaurants à Hong Kong, Séoul, Dubaï, Tokyo, Moscou, Las Vegas, Berlin, mais qui reste un expérimentateur et un poète. Il nous a donné rendez-vous au Gaïa, rive gauche. Son bistrot chic installé désormais au 6 rue Saint-Simon dans le 7e arrondissement.
Europe 1, 11h, 12h30, en balade avec Pierre Gagnaire. Frédéric Taddeï.
Bonjour Pierre Gagnaire.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Alors c'est la nouvelle adresse du Gaïa rive gauche.
Rive gauche, on a traversé le boulevard Saint-Germain.
Ouais.
Moi, je ne reviens pas d'ailleurs, moi, le petit Stéphanois qui vit dans un quartier, c'est incroyable.
Oh bah, ça fait longtemps maintenant que le petit Stéphanois continue de s'ébahir à Dubaï, à Hong Kong,
oui.
À Moscou, partout. Et alors pourquoi avez-vous changé d'adresse pour le Gaïa rive gauche, qui est votre bistrot chic, un peu marin?
Eh ben, cet endroit, c'était assez étonnant. Il y avait un espèce de dysfonctionnement entre la cuisine et le lieu.
C'était rue du Bac, hein, à ce moment-là.
Oui, et c'est assez intéressant, d'ailleurs, sur plan presque commercial, d'analyser pourquoi cette cuisine avait de moins en moins sa place dans cet endroit. Et puis, cette ferme Saint-Simon.
Ici, c'était la ferme Saint-Simon, rue Saint-Simon.
Voilà, et qui est tenue par deux personnes, qui appartient à deux personnes, dont une est Marcelo Julia.
Votre décorateur.
De Saint-Étienne. Donc, on a bouclé la boucle. Eux étaient un peu en panne d'idées sur cet endroit. Et nous, on était en panne d'un lieu qui s'essoufflait, rue du Bac. Voilà. Et l'endroit, il est parfait parce qu'il est à la fois élégant, il y a plus d'espace. Sur le plan de la cuisine, on est plus confortable. Et puis, c'était l'occasion de redynamiser par des nouveaux décors, par une offre un peu plus terrienne. Il y a un peu plus de viande. On a tout changé sans rien changer. Voilà.
Alors un peu plus de viande, c'est étonnant parce que j'ai l'impression que la tendance était plutôt à de moins en moins de viande.
Non mais il y a une viande, donc on en a mis trois, donc on reste. Ouais, bon, je prétends pas être ce que je suis pas. Je suis
un amoureux pas vegan.
Je suis pas vegan, mais quand même un amoureux des légumes depuis le départ. Et d'ailleurs, dès que j'ai commencé à cuisiner pour moi en 81, les légumes ont tenu beaucoup de place. Mais je me suis dit qu'ici, dans cet endroit, deux viandes de plus, ça ne déparerait pas et que je n'aurais pas l'impression de trahir quoi que ce soit. Voilà. Faire une queue de bœuf à la moelle avec des couteaux, je fais plaisir à tout le monde. Quoi.
Je venais souvent au Gaïa rive gauche, oui, de la rue du Bac pour manger votre célèbre bouillon Zezette,
oui, oui.
Qui est votre un de vos tubes,
oui, oui, oui,
notamment à Las Vegas. Hein, je crois qu'ils en sont fous.
Absolument.
Moi aussi, j'en suis fou. Oui. Et malheureusement, il n'est plus à la carte. Est-ce qu'il est à la carte du nouveau Gaïa?
Non, mais il sera à la carte. Mais le Zezette, c'est du verre. Et on est en hiver. Donc là, on est plutôt dans le. Peut-être dans du Babette, quoi, ce qui est un peu dans le nord. Non, Zezette, c'est des herbes fraîches, c'est de la coriandre.
C'est une infusion de champignons de Paris.
Voilà.
Quand vous m'avez expliqué ça, d'ailleurs, j'étais sidéré parce que je le mangeais avec délice sans avoir aucune idée ce qu'il y avait dedans.
C'est un peu ma cuisine. Hein.
C'est exactement ça.
C'est ce qu'elle disait. Célèbre cinéaste dont j'ai perdu le nom,
Samuel Fuller,
voilà, qui disait je sais pas ce que j'ai mangé mais c'est tout foutrement bon.
Oui, vous l'aviez cité un jour, effectivement c'est le célèbre Samuel Fuller. Mais c'est vrai que c'est souvent le cas, hein, avec vous.
Ben oui.
On a l'impression que vous créez un plat à partir d'ingrédients dont on oublie les saveurs pour en créer une toute nouvelle.
C'est l'ambition.
C'est pour ça qu'on vous appelle le pape du constructivisme culinaire. J'arrive même plus à le dire. Hein, c'est référence à ça.
Peut-être. Moi, je cuisine comme je respire. Hein. Je cuisine avec avec mes sentiments, avec mon... Voilà.
Mais c'est d'autant plus drôle que vous êtes considéré comme l'un des plus grands cuisiniers du monde aujourd'hui, Pierre Gagnaire. Et pourtant, vous n'aviez pas du tout la vocation.
Ah non, ça... le problème, c'est que comme je n'ai pas d'autres envies, je suis resté sur ce qu'on m'avait mis dans les pattes. Quoi, voilà.
Il faut savoir que vos parents avaient un restaurant gastronomique, il y avait déjà une étoile au Michelin. Et vous n'étiez pas du tout heureux.
Ah non, j'étais pas... C'est lorsque j'ai compris que la cuisine pouvait créer des émotions, créer du lien, et tout simplement donner du sens à ma vie.
Ce qui n'était pas le cas du temps dans le restaurant de vos parents ?
Alors, mon père, il élevait ses enfants, et il était dans du bien pesé, bien compté. Il s'ennuyait ferme.
Lui non plus, ça n'était pas une
vocation. Ah non. Mon père,
c'était
il a.
Plutôt du côté de votre mère, alors qu'on était aubergiste.
Non, nulle part, personne n'était dans le coup. C'était...
une génération spontanée.
Mon père, lui, il a laissé son cœur à Val d'Isère. Et lorsqu'il est arrivé dans cette ville de Saint-Étienne, c'est pas Saint-Étienne qui l'a rendu triste, c'était la façon dont il faisait ce métier. Mon père était l'homme de la campagne. Moi, tous les lundis, c'était le jour de fermeture du restaurant, il partait dans les bois. Il allait saluer sa mère, à qui il disait trois mots, d'ailleurs, il ne se parlait pas, puisqu'il est orphelin depuis toujours. Et il était, c'est un silencieux et qui est un homme en fait de la campagne. Et lui, il était là un peu par hasard. Et comment j'ai failli l'être voilà. Et donc c'est ce malentendu qui a fait à la fois qui fait ma force et qui a aussi fait mes échecs parce que cet échec il vient d'une totale impréparation d'un futur. Moi, j'ai vu mon horizon, c'était une assiette qu'il fallait remplir chaque jour. Et comme on fait aussi un commerce, c'est un peu court comme projet, quoi. Voilà, aujourd'hui, je suis sûr qu'une banque ne peut pas prêter l'argent sur une assiette à bien remplir. C'est pas possible. Faut un compte d'exploitation.
De toutes choses que vous avez dû apprendre.
Et que j'ai appris.
On va en reparler. On se retrouve dans un instant avec Pierre Gagnère au nouveau Gaillard Rive Gauche, rue Saint-Simon.
Rue de Saint-Simon.
C'est le chef cuisinier Pierre Gagnère qui est en balade ce matin avec Frédéric Taddeï. Et alors, quoi de mieux pour en connaître plus sur lui que de le rejoindre dans un de ses restaurants ?
Nous sommes au bar du Gaïa Rive Gauche, rue de Saint-Simon, la nouvelle adresse de ce bistrot chic appartenant à Pierre Gagnère. C'est votre deuxième restaurant à Paris. Le premier, c'est le Balzac, hein, qui est le grand restaurant gastronomique, 3 étoiles au Michelin. Il y a tous ceux dont vous n'êtes pas propriétaire, mais que vous avez ouvert un peu partout dans le monde, aussi bien à Londres avec Sketch qu'à Dubaï, à Hong Kong, à Courchevel ou à Saint-Tropez. On est au bar. Est-ce que vous buvez de l'alcool, Pierre Gagnère ?
En fin de journée, mais je ne bois jamais dans la journée. Je peux pas. Alors, c'est impossible. Non, mais je... Ce qui me ravit, c'est que je goûtais très mal le vin et je peux dire que depuis quelques années, ça y est.
Là, vous avez fait des progrès.
J'apprécie. Voilà,
mais il y a des choses que vous commencez maintenant à apprécier que vous n'appréciez pas au début. Par exemple, la cuisine.
Tout simplement.
Non, c'est vrai. Vous êtes connu pour être celui qui n'était pas spécialement porté sur la nourriture et qui surtout ne goûtait jamais ses plats.
Oui.
Ce que j'ai toujours trouvé merveilleux, pouvoir faire une telle carrière de cuisinier sans avoir jamais goûté sa propre cuisine.
Oui, je la goûte un peu plus qu'avant, mais pas tant que ça. J'arrive assez bien à... D'abord, le goûter, ça veut dire quoi ? C'est s'asseoir et manger, ou alors prendre une petite cuillère, un petit truc comme ça, avec le bout du doigt. Et
ça vous suffit, vous ?
Non, mais j'ai beaucoup de défauts en cuisine. J'ai du mal à désosser une côte de veau, j'ai du mal à faire une belle poularde bien ficelée, mais le goût, ça, je connais, j'ai appris. J'ai pas appris, d'ailleurs. Je pense que j'ai un truc qui permet de passer l'étape de la dégustation.
Oui, voilà. C'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans la tête.
Ah, c'est très mental. Hein.
C'est très mental. Bah, ouais. Vous savez que tel ingrédient avec tel ingrédient, ça va donner tel goût.
Oui, enfin, je me suis planté quand même. Hein. Il y a eu quelques échecs. Hein.
Est-ce qu'il y a eu des plats qui, pour vous, restent dans votre mémoire ou vous pensiez que ce serait bien et ça n'était pas bien du tout ?
Ah ben, j'ai été pris de passion pour une herbe qui s'appelle le Rhône. Et le Rhône, c'était juste imbouffable. Et j'aimais le mot Rhône. Pourquoi ? Je ne sais pas, parce que peut-être que ça pensait à un neurone. Et alors, cet Rhône était un... c'était une espèce d'essence qui était incroyablement puissante et à vrai dire assez désagréable. Et je servais ça avec un Saint-Pierre et je ne comprenais pas, mais moi je trouvais ça très bon. Et alors, non, Pierre, ça, vraiment, on n'aime pas. Tu...
Mais c'est souvent.
Et comme j'avais, à l'époque, j'étais encore bien plus bourré. Aujourd'hui, je ne suis plus bourré, j'écoute vraiment les gens. Mais vraiment, pendant des années, quand Paul Bocuse m'a dit, mais pars en Amérique, Pierre, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire, Saint-Étienne. Ça m'a pas de souci de la tête. New York, Saint-Étienne, pour moi, c'était pareil, quoi. C'était une assiette qu'on remplissait.
Mais c'est drôle parce que vous dites c'est le mot qui vous plaisait. Et souvent, ce sont les mots qui vous plaisent. Hein. Le mot écrevisse, ça vous donne envie de cuisiner. Vous m'en aviez cité un jour un certain nombre comme ça. Fleur de courgette, voilà, ça vous parle. Voilà, beurre salé.
Chouquette, pressalé, cœur de laitue. Enfin, c'est quand même des très jolis mots, tout ça. Hein.
Et ça suffit. C'est ça qui vous met les neurones en branle.
Je pense que c'est comme quelqu'un qui écrit, il y a un moment où quelqu'un qui doit produire quelque chose, c'est irrépressible, encore aujourd'hui, et tant mieux, quand je sens que je dois rendre une copie, enfin, la copie, c'est à moi que je la rends, hein. Un nouveau plat, une nouvelle saison, enfin, il se passe quelque chose ou une contrainte pour un événement, plus rien ne compte, quoi. Le reste n'a plus d'importance, quoi. Cuisiner reste mon moteur, reste le cœur de ma vie, reste cet instant magique où je me retrouve face à moi et face à la réalité de ce pourquoi je suis né, c'est-à-dire produire quelque chose qui crée de l'émotion.
Oui, mais vous êtes toujours un expérimentateur et un poète pour moi, c'est-à-dire un expérimentateur parce qu'au fond, ne serait-ce que parce que vous êtes obligé de fournir la carte de nombreux restaurants à travers le monde, en plus, hein, où les saisons ne sont pas les mêmes, où les produits ne sont pas les mêmes. Vous devez inventer tout le temps. Et en même temps, il y a quelque chose de très poétique chez vous, très terre-à-terre, au fond, bien qu'on puisse vous trouver très conceptuel.
On n'est qu'un terre-à-terre. D'abord, on est terre-à-terre pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, on a un rapport au temps. C'est un train qui part tous les jours dans tous les restaurants à peu près autour de 13h et le soir autour de 20h. Donc, il faut être dans les cales. Et un repas, il y a un timing. Le plus grand repas du monde, s'il va durer une journée, c'est pas possible. Les gens, ils sont partis depuis longtemps. Ils sont dans leur télé. Donc, il faut trouver le rapport au temps et le rapport aussi au volume que la personne peut ingurgiter. Donc, ça, c'est des choses très terre à terre. Bon, après, il y a le rapport aux équipes, parce que ce qui fait aussi la modestie et la noblesse de notre travail, c'est un travail d'équipe où on engage des gens, on engage des vies, on engage de l'argent, et c'est aussi un projet commercial. Mais ça, je l'avais quand même très vite analysé, peut-être pas en mot commercial, mais en termes d'équipage. C'est-à-dire que c'est un équipage, et ces gens-là, on doit les embarquer dans notre histoire.
Il y en a combien, 500 à peu près, qui travaillent pour vous à travers le monde aujourd'hui?
Je pense plus.
Plus
je pense, je pense plus, oui. Je pense plus, mais je ne peux pas compter, mais plus. Là, aujourd'hui, à Paris, on est presque 80 personnes hein, entre les trois restaurants maintenant. Et c'est des belles histoires d'amitié, de relations fortes et de projets avec des gens qui croient à ce qu'ils font. Quoi. Et ça, c'est... j'ai rendu Vietnam... les gamins me font des petits mots, des petits trucs, ils m'offrent une cravate, c'est touchant.
Il y en a un au Vietnam maintenant?
Oui, depuis 3 ans, oui. On est au Vietnam, on est à Da Nang, oui. C'est vraiment... c'est passionnant. Quoi. Donc, il y a l'aspect cuisine, et puis il y a vraiment l'aspect humain qui d'ailleurs peut-être prend de plus en plus de place, parce qu'effectivement, j'ai un peu relevé la tête, j'ai réussi enfin, alors comme maintenant, hein, j'arrive à vous parler sans bredouiller, ce qui n'était pas... Si je réécoute des interviews il y a quelques années, c'était juste inaudible. Là, maintenant, j'arrive quand même à penser 3 mots à peu près correctement. Et donc, j'arrive à verbaliser ma cuisine. J'arrive à l'expliquer. J'arrive à dire ce que je veux, à ce que j'aime, à ce que j'aime pas. J'arrive à... Ah, voilà. Et ça, c'est...
Il vaut mieux hein, quand on a 500 ou 600 personnes qui travaillent pour vous. Il vaut mieux leur expliquer ce que vous voulez. On va continuer notre balade, Pierre Gagnaire. On va sortir du Gaïa et nous aventurer dans Paris, dans la grande ville.
Jusqu'à 12h30, Frédéric Tadéhi se balade avec Pierre Gagnaire dans les rues de Paris, ville qui abrite 3 restaurants du chef.
Nous voilà dans la rue de Saint-Simon avec Pierre Gagnaire. On se dirige vers son 3e restaurant, donc qui se trouve là où était l'ancien Gaïa rive gauche, rue du Bac. On arrive vers le boulevard Saint-Germain, toujours très embouteillé. Il y a une manifestation pas loin, une manifestation d'infirmières. C'est Paris, quoi, hein, Pierre Gagnaire.
C'est la société qui, avec ses convulsions, avec ses souffrances, ses incompréhensions. Voilà, c'est...
Vous y êtes habitué à Paris, le petit Stéphanois, comme vous appelez.
Oui. Vous savez, moi, je vis dans mes cuisines.
Et dans les avions.
Non, mais dans les cuisines. Oui, dans les avions, oui, mais surtout les cuisines, parce que... Donc, je me sens... D'ailleurs, je ne connais pas beaucoup Paris, en fait, parce que je sors, en fait, assez peu.
Vous n'allez jamais dîner ou déjeuner chez vos confrères?
Non, parce que je m'occupe d'abord de mes propres affaires. J'essaie que la gamelle soit bien tendue dans les endroits que l'on anime. Voilà, donc,
en plus, si on va dîner chez les autres, ils se disent qu'ils préfèrent venir ici qu'aller chez lui, que de manger chez lui.
Oui, ils pourraient éventuellement le dire. Oui. Donc, c'est vrai que... Non, mais sérieusement, moi, comme je voyage effectivement pas mal... Lorsque je suis à Paris, vraiment, je suis dans ces restaurants. Puis là, on a quand même bougé. Et puis, c'est vrai que pour moi, la valeur étalon, c'est 3 étoiles. Vraiment,
celui de la rue Balzac.
Ah, ouais, hein. Je veux vraiment pas que ça bouge. Et pour pas que ça bouge, il faut que ça bouge, justement. On a quand même 47 personnes et on a des prix qui sont quand même assez conséquents. Et il faut que lorsque les gens viennent, ils vivent une vraie expérience de bonheur, de global. Aussi bien en termes de qualité gustative qu'esthétique, quoi, que ce qui se passe autour.
Ouais. Alors, il faut dire, Pierre Gagnère, que vous avez connu la faillite. Hein, votre premier restaurant donc, à Saint-Étienne,
oui.
Qui avait 3 étoiles au Michelin. Oui. Vous avez dû le fermer. Vous n'aviez plus rien.
Voilà.
Vous êtes arrivé à Paris. Ce sont vos amis qui vous ont remis en selle parce que les banques ne voulaient plus vous prêter d'argent.
Ah non, ils avaient dit non, ça suffit. On ne joue plus. En fait, la chance que j'ai eue, c'est de trouver un lieu... où je suis toujours, d'ailleurs, que je loue, comme un gamin, location-gérance. Ce lieu est absolument parfait en termes de taille, de situation géographique. Ben, il était jusqu'à il y a 15 jours.
Oui, il se trouve qu'il est juste à côté des Champs-Élysées.
Oui,
donc vous avez eu quelques mauvais samedis avec les gilets jaunes.
On a eu quelques voitures qui ont flambé, oui. Voilà. Et puis, cet endroit m'a permis de tout de suite, en étant indépendant, mais sans les lourdeurs de... Des lourdeurs, je dirais, immobilières, ça m'a permis de tout de suite remettre en place, en quelques mois, mes principes de cuisine, qui, je le répète, sont ce qui donne du sens à ma vie. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'aurais pu rester à Saint-Étienne.
Oui, qu'est-ce qui s'est pas bien passé à Saint-Étienne? Parce que c'était Saint-Étienne, une ville pas assez riche, il n'y avait pas la clientèle, parce que vous avez eu d'excellentes critiques tout de suite.
J'ai eu des critiques incroyables, j'étais... Même peut-être plus qu'aujourd'hui, encore moins contesté.
À l'époque, on vous appelait le Mozart des fourneaux.
Oui, et puis j'avais droit à tous les titres possibles et imaginables. Enfin, mais c'était la ville. C'est la difficulté, c'est qu'on fait un commerce. Et un commerce, c'est un subtil mélange d'ingrédients qu'on ne maîtrise pas toujours. Mais là, il y avait vraiment des gros ingrédients qui n'allaient pas.
Il manquait du public.
Il y a manqué un public, j'avais pas d'hôtel. La ville n'est pas une ville touristique. Parce que. C'est une ville, sans faire un jour à Saint-Étienne, c'est une ville qui souffre. D'ailleurs, moi, j'en suis malheureux. Ben, il y a un maire, là, de Perdrio, qui est un type formidable, mais il se bat pour cette... Mais c'est une ville compliquée, parce qu'il a eu du mal un peu à se réinventer. Voilà, donc là, nous arrivons devant le Pierrot.
Voilà, le Pierrot, c'est l'ancien Gaillard Rive Gauche.
Voilà, donc qui est ouvert il y a... Ben, c'est tout neuf, hein, il y a 8 jours.
On est rue du Bac.
Voilà, on est au 44. Voilà.
Ouais.
Et vous allez voir, c'est comme un théâtre qu'on a mis en place. On a l'impression que ce restaurant a toujours existé. Et ça, je veux dire que je remercie le décorateur qui s'appelle Richard Lafont parce qu'il a absolument fait ce qu'on voulait, à savoir juste un lieu sympa. Un lieu,
mais c'est quoi, voilà. Pierrot, c'est pas.
C'est Pierre.
C'est voilà. Pierre, mais voilà. À l'italienne. Donc, voilà, c'est un restaurant italien.
C'est un restaurant italien.
C'est parce que vous n'aviez jamais eu de restaurant en Italie, vous avez voulu faire un restaurant italien à Paris.
Non, mais j'ai toujours eu beaucoup d'Italiens dans mes cuisines. Beaucoup d'Italiens et beaucoup de produits italiens. Et quand j'étais gamin, j'ai mangé beaucoup de pizzas.
Ne me dites pas qu'on sert des pizzas dans le restaurant de Pierre Gagnère.
On en servira un jour, mais pas tout de suite, parce que sinon, on va leur donner une mauvaise habitude aux gens. Et il se trouve que dans l'équipe, j'avais 3 Italiens qui travaillaient avec moi depuis déjà quelques années. On a eu aussi une contrainte à Courchevel. On a changé de formule l'an dernier. On a fait un Pierrot qui a très bien marché. On s'est dit, ben allez, on y va. Et alors, comment dire, on fait ça honnêtement. C'est-à-dire que la carte, elle est en français. On ne va pas la jouer Disneyland, quoi. Donc, c'est en français. Et c'est bien sûr l'ambition. Finalement, c'est comme Pierre Gagnère à Tokyo. C'est... Pierre Gagnère essaie de rendre hommage à une ville, à un pays qu'il aime, à travers le fil de sa sensibilité. Voilà, donc c'est l'Italie à travers mon ressenti.
Et à Dubaï, c'est la même chose. Le restaurant de Dubaï, c'est parce que à part les dattes, à Dubaï, qu'est-ce qu'on y mange ?
Il y a le lait de chameau qui est très bon. Et on fait des très bons sorbets, des très bonnes glaces. Il y a les dattes, il y a des fermes dans le désert, des fermes ils font des légumes. C'est un pays qui est en train de s'inventer. Alors avec des choses un peu particulières, mais en tout cas sur le plan culinaire, il y a un melting pot aussi même de population. Moi, à Dubaï, j'ai des Ouzbeks, des Jordaniens, des Syriens, des Népalais, des gens qui se tapent sur la gueule à 100 km.
Ils viennent faire la paix chez vous.
Non, mais en cuisine, ils cuisinent. Des gens qui cuisinent.
Ah oui, c'est votre personnel.
Non, le personnel. Des gens qui viennent pour vivre. Et à Dubaï, humainement parlant, c'est passionnant parce que ces gens sont là parce qu'ils veulent travailler. Ils ont la banane, quoi. Ils sont heureux. Et tout ce petit monde se retrouve grâce à un projet de cuisine. Et ben, on arrive à faire cohabiter des Égyptiens, évidemment. Enfin, toutes sortes de gens passionnants et qui ont leur propre culture aussi culinaire.
Pierre Gagnère, je sais que vous aimez beaucoup le jazz. Et je me suis dit, puisqu'on ne vous a pas toujours très bien traité, on va écouter Cannonball Adderley interpréter « Why am I treated so bad ?»
C'est parfait.
My Treated So By par Julian Cannonball Adderley, merveilleux saxophoniste. Maintenant, on peut rentrer dans ce nouveau restaurant de Pierre Gagnère.
Frédéric Taddeï et le chef Pierre Gagnère viennent d'être rejoints par la femme de ce dernier pour la suite de leur balade.
Nous sommes au Pierrot, 44 rue du Bac, le restaurant italien de Pierre Gagnère. où on a retrouvé Sylvie Le Bihan, qui est romancière, On vous doit l'autre, Là où la terre s'arrête, Qu'il emporte mon secret, tous édités aux éditions du Seuil, et l'épouse de Pierre Gagnaire. Vous travaillez ensemble ?
Oui, on travaille ensemble.
De plus en plus,
c'est un plaisir, et en même temps, je me rends compte de la réalité de son travail, quoi. Donc, j'ai beaucoup de compassion quand il rentre le soir, voilà.
Vous êtes responsable des projets des restaurants Pierre Gagnaire. J'imagine que c'était énorme parce qu'il y a des projets. C'est un truc qui pourrait vous occuper 24h/24.
Oui, ça pourrait m'occuper 24h/24. On dit non à beaucoup de projets parce que ça n'a pas de sens, parce qu'il y a quand même une sorte de colonne vertébrale dans le développement. C'est-à-dire que non seulement on a envie d'avoir... c'est-à-dire qu'à chaque projet, on accole un talent. Une personne qui a travaillé avec nous, donc il faut que ça ait du sens. Et en même temps, il faut que ça ait du sens pour Pierre, pour son histoire. Il n'y a pas de concept, il n'y a pas de projet de développement, il y a des rencontres. Et il y a des rencontres, et puis après, ça se fait ou ça ne se fait pas.
Oui, il m'a raconté, là, c'est les Italiens, quoi.
Par exemple, ouais, on a eu cette idée. Bon, c'est vrai qu'en plus, on aime beaucoup l'Italie et la cuisine italienne, les produits, ouais. Donc, ça avait du sens.
Et pour vous, cette rue a du sens, puisque c'est quand même la rue où habitait André Malraux quand il a écrit La Condition humaine, Romain Gary, Georges Darien, l'auteur du Voleur, Chateaubriand. La rue du Bac, c'est terrible.
C'est vrai, et puis on est vraiment dans un... on est dans le ce qu'on appelle le sorte de cercle germano-pratin, où tout se passe, enfin, et finalement, rien ne se passe.
Donc,
non, on fait croire que ça se passe.
Alors, c'est les plats, Pierre Gagnaire, vous ne les faites pas voyager à la carte du restaurant de Dubaï. Il n'y a pas du tout les mêmes plats qu'à la carte du restaurant parisien ou à Londres ou à Moscou ou à Berlin. C'est pour ça que je me dis, vous devez être tout le temps en train d'inventer. Et j'imagine que c'est dans les avions que vous inventez
non,
le plus.
Non, les avions, je dors. Non, je... Je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer.
Si, moi je sais. Il a une concentration de travail. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où il se dit « je vais faire », à la différence d'un écrivain, par exemple, on attend un peu l'inspiration, Pierre va se mettre au travail. Il va se mettre au travail et là, tout s'enclenche. Et il a comme une sorte de bibliothèque de goût dans sa tête et il sait si les choses vont aller ensemble ou pas aller ensemble. Et moi, je le vois travailler, une force de travail incroyable.
Ce qu'il faut, c'est avoir un bon projet, quoi. C'est-à-dire que de se dire, là, je m'occupe de la carte du restaurant de Berlin et hop, on y va.
Voilà, il faut... je pense que ça, c'est classique. Je l'ai appris avec des pommes. Si on veut tout embraser, on se met les pieds à tapis. C'est ce qui s'est passé ce matin, d'ailleurs. Et la neige, là, m'a trahi. Là. Non, il faut être dans un lieu et être avec les... Je pense que le jour où il y aura un problème, c'est lorsque j'aurai l'impression de plus être avec les gens. Et je pense que ça vaut pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de gens, ils ne sont plus là. Ils sont à 2 mètres du sol. Et nous, on est dans du concret. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux horaires, par rapport aux problèmes pratiques que l'on a avec des gens, avec des problèmes d'intendance tout bête, quoi. Enfin, des trucs qui sont même parfois ridicules ou très drôles.
C'est quoi, par exemple ?
Les chiottes qui sont bouchées, quoi, par exemple. Ça arrive. Ou alors le frigo qui tombe en panne.
Ou le poisson qui n'arrive pas à l'heure, comme pour Vatel.
Ça arrive aussi. On a 4 voitures qui ont flambé dans le restaurant l'autre jour.
À cause des gilets jaunes.
On a quand même devant l'entrée de service, on a une montagne de suie. Je ne sais pas comment faire pour l'enlever. Donc un jour, on va prendre les pelles. Parce que la mairie est débordée, semble-t-il. Donc, il a fallu régler les problèmes parce que les gens sont rentrés. Il y en a de partout. Donc il faut trouver une solution qui soit... Enfin, c'est les problèmes... Tout bête, hein, qui sont de... Et c'est là qu'elle intervient, elle dit, tu t'arrêtes, stop.
Non, mais...
Sylvie Le Bihan.
Mon rôle, dans ces cas-là, je prends une pelle. Non, mon rôle, c'est d'essayer de relativiser et de... Non, pas de le calmer, parce qu'il n'est pas énervé, mais d'essayer de relativiser et puis de remettre des choses en perspective.
Très souvent, les grands chefs, aujourd'hui, sont tellement idolâtrés, ils ne se voient plus du tout comme des restaurateurs. Ils se voient vraiment comme des chefs. Mm-hmm. Est-ce que Pierre Gagnaire, lui, se voit comme un restaurateur?
Non, je pense qu'il se voit comme un aubergiste,
plus que
comme un restaurateur. C'est-à-dire qu'il a envie d'accueillir les gens, que les gens passent un bon moment, et que tout aille bien. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a des œuvres d'art dans ces restaurants. C'est pour ça qu'il y a des photos. C'est pour ça qu'on fait appel à des amis qui vont nous aider à sélectionner, parce qu'on ne connaît pas toutes les bonnes adresses, en sachant exactement ce qu'on veut. Parce que c'est un ensemble, c'est un service qui doit être convivial, c'est un service qui doit être respectueux et qui doit aussi rendre hommage à tout le travail des cuisiniers derrière. Donc, c'est une chaîne. Donc, comme un aubergiste.
Oui, ouais, aubergiste, comme...
Oui, ben, comme l'était ma grand-mère, qui avait une ferme, une espèce de ferme auberge à la campagne, et il y avait la soupe qui était chaude pour le représentant de commerce. Le matin, le petit blanc pour les gens qui passaient. Et ce sens de l'accueil qui n'est pas un service au sens commercial, juste une lumière qui est éclairée. Et moi, je me rends compte à quel point, je m'en suis rendu compte à Saint-Étienne, à quel point les restaurants, les cafés, enfin les commerces de bouche sont importants dans une cité. Parce que c'est toujours des lieux de peut-être, et ça revient sans doute aujourd'hui, des lieux où on se retrouve, des lieux qui protègent. Et moi, je vais à Saint-Étienne, on faisait la soupe populaire l'hiver. Il y avait des gens qui passaient, qui avaient la rentrée de service, qui étaient là, et ils avaient leur... Et ça ne nous coûtait rien, nous, et on faisait plaisir à 5-10 personnes. Et je pense que un restaurant, il a aussi il a cette fonction d'aubergiste. Bien sûr, les clients qui rentrent, qui paient, mais aussi tout ce que ça draine autour. Vous voyez, je prends des exemples, comme je pense à Michel Braz, par exemple, qui est dans l'Aubrac. On est un peu des socialistes dans l'âme, finalement.
On retrouve tout de suite Frédéric Taddeï et Pierre Gagnère dans le restaurant italien du 7e arrondissement du Chef. Et alors, la table s'agrandit encore.
Nous sommes au Pierrot, 44 rue du Bac, avec Pierre Gagnère et Sylvie Le Bihan, et vient d'arriver Nicolas Lévy. Bonjour Nicolas.
Bonjour. Bonsoir.
Alors présentez-nous Nicolas Lévy.
Alors Nicolas est un ami qu'on a rencontré à Belle-Île. Belle-Île en mer, où on passe nos étés, enfin le peu de vacances que Pierre a. Et Nicolas est un galeriste. Et un grand amateur de photos, comme nous le sommes. Et c'est vrai qu'au moment où on a commencé à se dire, dans ce restaurant, on ne voulait pas mettre du faux. On n'avait pas envie d'acheter des trucs libres de droit. Enfin, voilà. Donc, comme on avait commencé une collection avec le Gaïa qui avait trait à la nourriture, on s'est dit qu'on allait continuer avec l'Italie pour le Pierrot. Et on a eu l'idée d'appeler Nicolas pour lui demander de nous aider dans la recherche de ses trésors.
Nicolas, c'est Photodoc. Charlotte qui est avec vous également. Hein.
Oui, absolument. Photodoc est né il y a quelques années, il y a 4 ans, sur une idée que j'avais de proposer une photographie documentaire à un marché de collectionneurs et de passionnés éclairés.
On vient,
et
on sait ce qu'on cherche, c'est-à-dire qu'on a envie d'avoir des photos sur tel thème.
Effectivement, on est vraiment sur la photographie documentaire. Et Nicolas est arrivé il y a 2 ans, convaincu lui aussi, explorateur de l'intérieur, bien sûr, parce qu'il avait exposé. Et il s'est dit, tiens, il y a un truc à porter un peu plus loin, et c'est ce qu'on fait ensemble depuis 2 ans. Enfin, on n'est pas que deux.
Vous aviez une galerie rue Jean-Jacques Rousseau, hein ?
Non, je n'avais pas de galerie. J'étais producteur de photos pour la publicité. Et donc, j'ai fait un très grand écart entre la photo publicitaire et la photo documentaire, qu'on aime à dire qui prend part à la transformation du monde, qui est une photo engagée, une photo qui transforme, où le photographe rentre en immersion souvent longtemps avec le sujet qu'il photographie. Le sujet peut être éventuellement transformé par l'idée que le photographe s'immerge avec lui longtemps et redonne un autre regard. Et le photographe lui-même est transformé par ce qu'il découvre de son sujet, qui n'est pas obligatoirement le qu'en dira-t-on et les idées préconçues. Et éventuellement, le spectateur finit par être transformé aussi par une photo réparatrice. Là, ce qu'on voit ici sur les murs, c'est juste une sélection un petit peu que j'ai essayé de faire pointue en connaissant Pierre et ses goûts. Ça a été fait un peu de manière... Je le remercie pour sa générosité.
C'est des gens à table, des gens...
En rapport avec la table.
Ouais.
C'est la règle.
C'était le brief, hein, si je puis dire.
Ah ben ouais, c'est
moi, je travaille beaucoup. J'aime bien travailler sur commande. Hein, et ils m'ont dit, voilà, on veut des photos vivantes en Italie et qui a un rapport même ténu, voire un petit peu décalé avec la nourriture. Et donc j'ai fait des recherches. Il y a des photographes connus, d'autres moins connus. Là, il y a William Klein, en l'occurrence. Mais il y a d'autres photographes. Et ça m'a fait extrêmement plaisir de créer ce lien entre un photographe, un artiste comme Pierre Gagnaire. Je considère vraiment que c'est un artiste. Et puis moi, comme intervenant un peu en arrière. Et je me suis dit que du coup, je suis ravi qu'on soit invité aujourd'hui. Et du coup, j'ai fait venir Charlotte, qui est la fondatrice de Photodoc, parce qu'on travaille ensemble sur un projet engagé, pas toujours facile, mais très nécessaire, sur l'implication qu'on a à défendre une photographie, non seulement la photographie elle-même, mais la manière dont les photographes prennent conscience de l'importance de leur travail aujourd'hui pour transformer le monde.
Et les photographes qui ont de plus en plus de mal à se faire publier dans les journaux parce qu'il n'y a plus de budget. Hein.
Absolument. Et donc, on se décale un peu de la photographie de reportage qui était publiée, une photographie de commande, pour aller vers une photographie où souvent, c'est les photographes eux-mêmes qui s'impliquent au départ et qui ensuite trouvent des plateformes, pourquoi pas la nôtre.
Pour diffuser leur travail.
Absolument.
Vous aimez vous faire photographier, Pierre Gagnaire ? Est-ce que vous êtes facilement photographiable ?
Je ne pose pas la question. Je ne suis pas assez narcissique pour ça. Donc, voilà, ça fait partie du...
Mais on vous a beaucoup filmé,
oui,
on vous a
oui,
beaucoup photographié.
Mais
vous vous en foutez.
Mais, bon, non, honnêtement, ça, vrai, j'ai pas de, par rapport à ça, non, j'ai pas de... Non, ce qui est intéressant aussi, parce que, effectivement, j'ai beaucoup de photos depuis longtemps en photographie. Et ce qui est assez fascinant, c'est la transformation de son corps. Ça, c'est assez étrange. Et même parfois, d'un mois à l'autre, d'ailleurs, on voit dans le corps, il y a une douleur qui n'était pas là, qui arrive. Et on vit avec, quoi.
Et ça se voit où, ça ?
Ah ben, ça se sent, dans tous les cas. C'est assez...
Est-ce que vous trouvez que la photographie rend justice à la nourriture ? On dit que c'est très, très difficile de photographier un plat, de photographier des ingrédients...
Oui, ce que je voudrais dire, c'est rebondir sur l'histoire que vous avez évoquée sur les photographes. Je trouve que les photographes sont maltraités. Je trouve qu'on ne les respecte pas. Et je trouve que ces gens, alors je ne parle pas forcément des grands photographes qui deviennent des stars adulées dans toutes les grandes manifestations, mais le photographe de base qui fait bien son boulot, je trouve qu'on se fout de sa gueule, quoi. Sa photo, elle est pillée, elle est démultipliée. Alors ça me rend dingue, quoi, ça. Alors, là, nous, la chance qu'on a, c'est que notre plat, nous, les gens, l'ingurgite est terminé, il faut recommencer. Alors que les photos, on peut à satiété, les... par exemple, là, je dois faire une campagne pour une marque, et ils vont prendre une photo. Attendez, la photo a 2 ans. Je suis plus le même qu'il y a 2 ans. Et du coup, je pense bien sûr à ma gueule, mais je pense surtout au photographe qui va pouvoir travailler et gagner sa vie sur cette campagne. Alors après, pour l'histoire de la photo de nourriture, c'est très compliqué de photographier la nourriture. C'est très compliqué parce que d'abord, il y a eu beaucoup... Enfin, un peu comme la cuisine. Hein. Aujourd'hui, d'abord, les images circulent très vite et la cuisine aussi circule très vite. Et aujourd'hui, pour surprendre les gens, pour trouver le petit truc qui va faire la différence... Ça, c'est pas évident. Hein. Ouais.
Charlotte ?
Oui, on pourrait peut-être penser à une série de photographies documentaires avec la nourriture, puisque qui dit série dit accompagnement, dit photographie qui se déroule d'un instant T à une réalisation. Donc, on a un découpage de photographies et donc on pourrait accompagner toutes ces images de cuisine dans la réalisation de l'instant. Et ça, c'est propre à la photographie documentaire qui est de faire non pas un sujet sur quelque chose ou sur quelqu'un, mais avec. Donc, on photographie avec l'autre. Donc là, on pourrait photographier avec l'évolution, la transformation de l'ingrédient magique.
Ça demande une triple page, quoi, ça.
Mais formidable. Oui, on réinvente tout. On réinvente tout avec la photographie documentaire. Alors, c'est exactement ça.
Ou un site dédié, hein, puisque on parle maintenant beaucoup d'Internet, quand même. On pourrait très bien imaginer un site dédié à la transformation de la nourriture.
Il y a des gens qui ont fait des travaux intéressants là-dessus. Il y a quand même des photographes qui ont le talent aussi pour aller plus loin que la simple photo. Non, mais moi, je pense à l'artisan de la photo. C'est-à-dire qu'il y a des artistes, il y a des artisans. comme les cuisines. Il y a des bons artisans. Il faut qu'ils vivent de leur travail. C'est peut-être que des artisans. Leur photo vaut peut-être que 300 euros, mais elle vaut 300 euros.
Mais absolument.
Elle vaut pas 0 euros.
Absolument, absolument.
Dernière question. Vous publiez bientôt un nouveau roman, Sylvie Lebihan.
Oui, aux éditions Jean-Claude Lattès. Il va sortir le 6 mars. Et en exclusivité mondiale, je vais vous donner le titre, c'est « Amour propre », où je vais parler de Curzio Malaparte, puisque j'ai eu la chance d'aller dans cette maison
La magnifique
mythique,
villa à Capri.
Voilà, la villa Malaparte. Et de ma conception de la maternité, où on peut peut-être parfois avoir un regret par rapport à celle qu'on aurait pu être sans enfants, même si j'adore mes enfants. Voilà.
Eh bien, on lira ça à partir du mois de mars. Et je vous propose d'écouter Esther Phillips. En 1966, elle chantait « A Taste of Honey », un goût de miel. C'était Esther Phillips, avec sa voix si caractéristique, interprétant A Taste of Honey. On continue notre balade avec Pierre Gagnère.
De 11h à 12h30, vous partez en balade avec Frédéric Taddeï et le chef Pierre Gagnère dans les rues de Paris.
Nous voilà en taxi avec Pierre Gagnère. On va vers la rue Saint-Jacques. Est-ce qu'il y a des nouveaux produits, Pierre Gagnère, depuis le temps que vous faites de la cuisine maintenant, est-ce que vous avez vu apparaître des produits et les goûts qui vont avec, qui n'existaient pas ou en tout cas qui n'étaient pas accessibles au début de votre carrière?
Ce qu'on a appelé à un moment donné les légumes anciens, le rutabaga, le salsifis, le topinambour, le panais, le cerfeuil tubéreux. C'est des choses qu'on n'utilisait pas du tout il y a 30 ans, oui. Alors que c'est des légumes aujourd'hui très...
C'est-à-dire ça nous rappelait l'occupation, je crois.
Surtout le rutabaga. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vraiment, le rutabaga, c'est rentré vraiment... C'est très chic contre le rutabaga.
C'est drôle, hein, cette...
Ah oui, oui. Les algues aussi, il y a plein de producteurs d'algues. Il y a des algues qui sont ramassées, qui sont ensuite dégorgées dans des eaux purifiées. Enfin, il y a tout un travail là-dessus. Dans les pommes de terre, par exemple, les pommes de terre, avant, ben, on achetait des patates, c'était bon, des binches. Bon, aujourd'hui, ben, il y a des Roosevelt, il y a des Pompadour, il y a plein de variétés.
C'est quelque chose qui est frappant quand on fait le marché, je trouve. Quand on fait le marché, il y a des produits, beaucoup plus de produits qu'il n'en existait quand j'étais enfant, par exemple.
Bien sûr, les poires, les poires Comis, les poires Williams,
les pommes, les variétés de pommes,
absolument incroyable, absolument. Oui, oui, oui. Donc il y a à la fois il y a une dégradation des produits. Parce qu'on parle beaucoup des légumes et la mer. la mère est en souffrance. D'ailleurs, le Michelin qui vient de sortir a mis en avant...
Où vous avez toujours vos trois étoiles.
Je suis assez content, 25 ans, je suis très content. Et donc, ils ont mis en avant un cuisinier qui s'appelle Grégory Coutenceau, qui est très impliqué dans la défense...
Des espèces de poissons.
Voilà, et contre la pêche électrique. Et c'est vrai que c'est un carnage, enfin, la façon dont aujourd'hui la pêche est réglée. Alors moi, je ne me considère pas comme un spécialiste. Justement, comme je suis tellement attaché au geste, tellement attaché à cette chose finale qui est juste une petite chose autour de l'assiette, je ne prétends pas être... je suis très, très conscient de ce que la planète aujourd'hui endure, mais je n'ai pas un discours suffisamment structuré et compétent pour avoir une opinion sur des choses qui bien sûr, m'interpellent et m'interrogent. Mais c'est vrai que dans les légumes, les fraises des bois, enfin, y a beaucoup, les agrumes, qui connaissait les bains de Bouddha il y a 20 ans ? Aujourd'hui, les bains de Bouddha, on trouve ça partout, quoi.
Et est-ce qu'il y a des produits qui ont disparu ?
Ce qui a disparu, c'est le gros turbo de 8 kg, qui était à peu près la taille du turbo que recevait mon père il y a 50 ans, lorsqu'il avait son restaurant. C'est les poissons de rivière, toutes ces petites fritures extraordinaires, les écrevisses dont on parlait tout à l'heure, sauvages. Il y a encore un peu dans le lac Léman, le lac d'Annecy, les grenouilles. Aujourd'hui, les grenouilles de Turquie, enfin, voilà.
Vous avez été l'un des pionniers de la cuisine moléculaire avec Hervé Tisse. Je crois que vous avez été le premier à faire un plat composé de molécules uniquement pas naturelles. Hein.
Alors là, c'était un plat note à note. C'était encore au-delà de la cuisine moléculaire. C'est-à-dire que la cuisine moléculaire, le génie de ce type de travail, ça a vraiment été Fernand Dria. Qui a été
incroyable. Propriétaire du restaurant El Bouli, qui était le restaurant le plus connu du monde à un moment. Tout le monde en parlait, sans y avoir jamais mangé.
Oui. Mais justement, on parlait de photographie tout à l'heure. Lui, c'est sans doute peut-être le premier cuisinier qui a su servir avec autant de finesse et de force, utiliser l'image, utiliser le concept de l'œil, parce que c'est vrai que cette cuisine était très très photographiable puisqu'elle était figée dans la gélatine, quoi. Donc c'est facile à photographier et puis c'était très bon, très drôle, très, parce que ce qui est intéressant dans cette cuisine, c'est qu'elle a développé le concept de l'humour. Voilà, et ça, c'était très intéressant.
C'est quelqu'un qui se tuait au travail pour retrouver le goût de l'olive verte, par exemple.
Alors que c'est le contraire. Alors que moi, c'est tout mon enjeu, c'est qu'on ne retrouve pas l'olive verte. Voilà.
Oui, vous voulez qu'on oublie le goût de l'olive verte, en dépit du fait qu'il y a de l'olive verte dans votre plat.
Oui, c'était le... Mais Hervé, moi, quelqu'un que
j'ai... Hervé Tisse, oui.
Hervé Tisse, c'est quand même quelqu'un que j'ai beaucoup de respect, parce qu'il bosse comme un damné, mais au-delà de bosser comme un damné, il est brillant, il est honnête, et vraiment... il a un souci de transmettre un savoir qui, quelque part, aide les cuisiniers à mieux comprendre les phénomènes de cuisson, les phénomènes de transformation des produits, et ça aide énormément. Et son travail est aujourd'hui extrêmement important, notamment dans les écoles. Voilà. Alors aujourd'hui, il est passé à autre chose, il est passé au note à note. Alors là, on est dans la construction de plats dans lequel il n'y a effectivement pas un brin de produit naturel. Alors j'ai un peu de mal à suivre. Bon, j'ai fait par jeu, on a fait 2-3 recettes. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la capacité d'en faire un outil de travail qui soit à la hauteur de ce que me propose Hervé.
On se retrouve juste après les informations avec Pierre Gagnère. On continue notre balade.
Europe 1, en balade avec Pierre Gagnère, Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec un grand chef, Pierre Gagnère, une star internationale, puisqu'il a des restaurants un peu partout dans le monde, en Asie beaucoup. Il y en a un nouveau au Vietnam, mais aussi en France, à Bordeaux, à Courchevel.
À Gordes.
À Gordes, ouais. À La Rochelle. Ouais. Quand vous êtes, comme maintenant, dans une rue de Paris, on est rue Saint-Jacques, est-ce que vous regardez les étals des commerçants et qu'est-ce que vous regardez, vous?
Non, forcément, j'ai un œil...
C'est un goût esthétique à ce moment-là ou c'est, vous regardez si c'est joli ou...
Je regarde si c'est frais.
Ouais.
Et si c'est frais et si c'est bon. Et on arrive assez facilement à se rendre compte si le produit est de qualité.
Ah oui, voilà. Juste à l'œil, comme ça.
Voilà. Et puis évidemment, les prix, quoi. Les prix et... Honnêtement, moi, je trouve que les gens font... On voit que les gens font des efforts pour quand même... c'est cher, mais... pour quand même avoir des prix raisonnables, des prix qui se tiennent.
Vous trouvez que c'est de plus en plus cher, la nourriture?
La nourriture, oui, d'ailleurs, c'est le problème. On parle de locavore, on parle de... Mais c'est des concepts un peu bobos, quoi. Les gens, faut qu'ils mangent, et pour qu'ils mangent, y a besoin d'une nourriture de masse qui soit, bien sûr, de qualité, qui soit acceptable pour, en termes de santé. Mais évidemment, ce qu'il faut inciter les gens, c'est à manger moins de viande, clairement. Ça. Moi, je mange très peu de viande, personnellement. Mais parce que...
j'ai l'impression que vous ne mangez très peu, de toute façon, vous, Pierre Gagnard.
Oui, je mange pas. Je mange juste ce qu'il faut. Moi, j'aime bien... Alors, c'est un peu paradoxal hein, par rapport à ce qu'on fait, mais moi, j'aime bien le mot frugalité. Parce que la frugalité, elle amène l'appétit. Et l'appétit, il amène le plaisir. Voilà. Et la frugalité en tout, que c'est son amour. Tous les excès, me font tourner la tête et me font peur. Et me font peur, à vrai dire.
Moi, je vous vois toujours comme un ascète. Et je me dis qu'à Saint-Étienne, d'ailleurs, ce restaurant, le premier, qui marchait pas très bien, vous nous le disiez, ça avait dû vous permettre justement de développer votre imagination. Vous aviez du temps, du silence, du recueillement presque.
Ah oui, oui.
Et c'est là que vous avez inventé cette cuisine.
Ah oui, oui, oui. Ah ben, clairement.
Qui n'appartient qu'à vous.
Ah ben, clairement. Lorsque je venais à Paris, je voyais cette frénésie des restaurants pleins avec les caisses enregistreuses. Mais comment ils font pour faire des nouveaux plats? Moi, il me faut du temps, il faut du silence. Sinon, c'est pas possible, quoi. J'ai évidemment construit mon univers dans le silence à Saint-Étienne. Alors aujourd'hui, ça va plus vite. Je vais tac, 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 je percute plus. Comme vous, dans votre travail, on est meilleur, quoi. Ça prend moins de temps. Mais ces années de silence, elles m'ont énormément servi. Oui.
Est-ce que je sais que vous aimez beaucoup la peinture, oui. Pas seulement la photo.
Oui.
Est-ce que la peinture vous inspire en tant que cuisinier?
Ouais, enfin, ce qui m'inspire, moi, c'est la... Tout à l'heure, on est sorti du Pierrot. Il y avait un petit rayon de soleil. Il y avait un truc, ça a disparu d'ailleurs là. La neige va revenir, ben, tout de suite je l'ai capté ça. Voilà. Je pense que ça c'est peut-être le côté artistique, effectivement, un détail, le reflet d'une bagnole dans une flaque d'eau. Enfin, il y a des choses qui.
Ça vous émeut, mais ça vous inspire en tant que cuisinier?
Je sais pas. J'aime pas dire des choses que je pense pas profondément.
Donc je
sais pas.
Vous pouvez même me dire non. Dites-moi non, ça m'inspire pas.
Je vous dis non.
Les couleurs, néanmoins. Parce que vous faites des plats souvent très colorés.
Oui.
Et je me dis peut-être que la couleur, à ce moment-là, a autant d'importance que le goût.
Ah ben, c'était vrai à une époque. Aujourd'hui, c'est moins vrai quand même. Parce que aujourd'hui, la cuisine, effectivement, malgré tout, l'esthétique, beaucoup de gens s'en sont emparés, notamment à cause de la photo, à cause de Instagram.
Oui. Aujourd'hui, tout le monde photographie le plat qu'il est en train de manger.
Voilà. Moi, j'ai quand même des gens qui m'ont dit, mais votre plat n'est pas assez photographiable. Alors là, je me dis quand même, il y a un problème. Parce que moi, j'ai jamais fait ça pour les photos, j'ai fait ça pour moi, parce que cette beauté me reposait. Alors aujourd'hui, effectivement, le goût m'importe plus. Peut-être parce que malgré tout, par plaisir, je goûte plus ma cuisine, je goûte plus la cuisine en général, quoi. Ouais. Mais oui, voilà, bon, j'ai tout dit là.
Pâtisserie du Panthéon.
Chez un de nos anciens.
Un ancien de chez Pierre Gagnard.
Voilà.
Bonjour.
Voilà. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour. Bienvenue à la pâtisserie du Panthéon.
Bonjour Sébastien.
Bonjour chef.
Vous voyez, j'avais dit que je viendrais un jour.
Je me souviens que c'était la charcuterie du Panthéon.
C'était la charcuterie du Panthéon, oui. Donc c'est un établissement qui date de début 1900. On a un plafond qui est merveilleux.
Et je crois que la boutique est classée.
Oui, tout à fait.
Oui, c'est ça,
et donc, on a refait l'ensemble des travaux en 2013. 2013-2014, on a eu 8 mois de travaux parce qu'on a tout refait, étant donné que c'était encore les laboratoires de la charcuterie. Et on a essayé de faire un bel outil de travail. Voilà.
Et ben on va visiter.
Venez,
on va
rentrer.
Dans la suite de la balade de Frédéric Taddeï et de Pierre Gagnère, vous allez entendre que le chef n'oublie pas ses anciennes recrues.
Nous voilà donc à la pâtisserie du Panthéon, 200 rue Saint-Jacques, chez Sébastien Desgardins, un ancien de la brigade de Pierre Gagnère.
Chef pâtissier chez nous pendant quelques années.
Il a ouvert maintenant depuis 5 ans.
Plus que ça, 10 ans maintenant, Sébastien.
Oui, parce que ma première boutique était basée dans le 12e arrondissement. Et on est parti parce que on avait des locaux qui étaient un peu petits. C'était une première installation. Et après, par chance, avec ma femme, on a trouvé ce local qui était magnifique, en été, dans un beau quartier qui est avec des gens très très intéressants. Et donc, on a ouvert en 2013.
Comment il était comme chef, Pierre Gagnère?
Pour moi, c'est toujours dur de parler de Monsieur Gagnère parce que j'ai toujours. Je suis toujours autant émerveillé. Enfin, pour moi, c'est une personne qui est extraordinaire, qui m'a beaucoup appris et qui, je pense, sa principale qualité, c'est de dire aux gens, quand c'est pas possible, c'est possible. non, mais c'est vrai.
Y compris à ceux qui travaillent.
Des fois, surtout les pâtissiers, je veux dire, quand on est en manque de produits ou des choses comme ça, voilà, la terre s'arrête de tourner. Et avec... Non, mais c'est vrai, chef. Et grâce à Monsieur Gagnère, en réalité, il vous prouve A plus B que voilà, tous les jours ne sont pas faits de la même manière. Parce que quand on arrivait au restaurant, on ne savait jamais, en réalité, si on allait dresser une assiette de la même manière
que la veille.
Et je trouve que ça, vraiment, c'est un bonheur et une chance d'avoir pu travailler à ses côtés et de nous avoir appris ça. Parce que, on va dire, dans le côté cuisine, côté pâtisserie, on est plus un peu dans des rails. Et c'est lui qui a raison. Parce que c'est vrai que si on dit qu'un plat est magnifique et qu'on ne touche plus, en réalité, la vie s'arrête. Et puis le plat, comme vous disiez, ça s'arrête, quoi, je veux dire. Et c'est à partir du moment où on se remet en question et où on se dit c'est bien, mais ça peut être mieux. Et je pense que c'est ça, la vie, en réalité.
Et alors vous, par rapport à la pâtisserie, Pierre, qui n'est pas votre travail au départ, à ce moment-là, vous devenez un client comme nous ou vous avez, là aussi, dans ce domaine, des idées bien précises?
Alors, très précises. Et très précises, non, parce que moi, lorsque j'ai commencé à travailler... Moi, j'ai fait ma pâtisserie au départ, mais ça, il est Sébastien. Et puis après, quand j'ai commencé à travailler pour moi, j'ai essayé d'avoir un pâtissier, mais à l'époque, effectivement, la pâtisserie est assez récente. Il n'y avait pas de pâtissier.
Non.
Il ne sait pas ce qu'il... Et puis alors, ils mettent des trucs, des pâtissiers, pour coller, des machins. Et donc, j'ai commencé, moi,
à réinventer la pâtisserie.
Et j'ai réinventé de façon très simple. Le seul mérite que j'ai, c'est que je me suis dit, il y a des fruits. Et les fruits, même s'ils ne sont pas bons, on peut en faire des trucs très sympas. Voilà. Et parce qu'on peut cuire, on peut décuire, on peut mettre du sucre, on peut mettre des caramels, on peut mettre des arômes, arômes naturels, du romarin, de la sauge, un peu de lavande, un peu de kirsch. Moi j'aime bien les alcools dans tout ça. Et puis parce qu'en fait la pâtisserie, il y a quelques grandes bases qui sont les grands biscuits. Enfin, ça, Sébastien a parlé mieux que moi. Puis après, il faut s'en jouer avec. Après, c'est les quantités, c'est les volumes, c'est la chance que nous par rapport à une pâtisserie, c'est qu'une pâtisserie, on pose un gâteau, ce gâteau fait qu'il ait quelques heures de vie. Nous, en cuisine, c'est la cuisine,
c'est instantané.
La pâtisserie, je la fais comme de la cuisine, c'est instantané, tac, c'est une durée de vie de quelques minutes, mais il faut que ça se mange assez rapidement. Et on peut jouer beaucoup plus. Oui, moi, je fais de la pâtisserie cuisinière, en fait. Mais par contre, j'ai besoin, et c'est là que des gens comme Sébastien ont été utiles, et on continue l'histoire dans ce sens-là, il faut des bons techniciens Et puis, alors, ce qu'il faut, et c'est là que Sébastien était quelqu'un vraiment d'extrêmement attachant, mais il avait peur, en fait. Je lui dis, mais non, lâchez-vous, Sébastien. On ne veut pas de mal, et moi, surtout pas moi, je ne veux pas de mal. Au contraire, j'ai besoin de vous. Donc, lâchez-vous. Et sa personnalité, elle s'est peu à peu épanouie. Et c'est vrai que Sébastien, il m'a porté la galette des rois il y a 3 jours. C'est l'ami de la famille, quoi. C'est quelqu'un d'affectif, d'affectueux, de gentil, de sensible, et qui, je sais... a laissé un souvenir formidable au restaurant par son travail, par sa gentillesse. Et aujourd'hui, avec sa femme, ils font un boulot et il a réussi. C'est moi, je suis très très content pour
eux. Et aujourd'hui, dans la pâtisserie qui est la vôtre, vous commercialisez des produits que vous n'auriez certainement pas imaginé si vous n'étiez pas passé par
Pierre Gagnère. Je pense qu'aujourd'hui, la différence entre quelqu'un qui a fait uniquement de la boutique et quelqu'un qui a fait de la restauration et après de la boutique. Automatiquement, on a une sensibilité qui est différente. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des alliances de goût, de texture. Enfin, on va monter un petit peu un gâteau comme on pourrait imaginer une assiette. Sauf que, comme le chef le disait, en réalité, il faut savoir que voilà, quand quelqu'un vient acheter un gâteau, ben, il y a du transport. On ne sait jamais si la personne va le manger aujourd'hui, si elle va le manger demain. Donc, il faut avoir des choses, en réalité, qui se gardent dans le temps. Mais pour moi, la restauration est vraiment... je pense que c'est très nécessaire. En réalité, on ne peut pas être pâtissier de restaurant sans avoir fait de la pâtisserie.
Traditionnelle,
oui. Parce que bah, comme le chef le dit, et c'est ça qui était marrant, parce que même quand on faisait des essais ou des choses comme ça, M. Gagnère, c'est parfaitement, en réalité, même c'est vrai, même si vous n'avez pas la technique pour le faire ou des choses comme ça, mais il sait parfaitement ce que c'est qu'un bon baba. Et ça, il va pouvoir dire au pâtissier, ben, tu fais de la merde, ou ton baba, il est...
Non, non, mais ça, c'est... J'ai jamais fait de la merde. Ça, jamais.
Non, non, mais...
J'ai trop de respect pour les gens.
Je veux dire...
J'ai pas s'avancer, mais c'est... On peut faire mieux.
Voilà. Mais je veux dire, c'est vraiment... Au niveau technique, après, voilà, c'est là où le pâtissier va rentrer en jeu. Mais après, voilà. Au niveau des alliances et tout, je veux dire...
Est-ce que la pâtisserie a beaucoup évolué ? Vous êtes jeune encore, hein, mais depuis que vous avez commencé ce métier, on a inventé beaucoup de choses, on a changé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'innovations.
Oui, il y a eu beaucoup d'innovations. Après, bon, beaucoup de combats sur la baisse de sucre, sur le travail au niveau des cuissons, sur... Non, il y a eu beaucoup, beaucoup de... Bah, d'ailleurs, ça se voit sur Paris aujourd'hui. Il y a 20 ans en arrière, il y avait quoi ? Il y avait 10 pâtissiers qui étaient connus. Aujourd'hui, sur Paris, dans chaque arrondissement, il y a au moins 5 pâtissiers qui sont connus.
À ce moment-là ?
Oh ben, oui.
Je vous interromps. Je vous propose de rendre un petit hommage à Joachim Rodrigo, qui a vécu ici, hein, rue Saint-Jacques, au 159, tout près d'ici. C'est là qu'il a composé son célèbre concerto d'Aranjuez.
Ah oui.
Eh oui, c'était là, juste à côté de chez vous. Et on va en écouter une version un peu particulière.
Votre fonds de commerce prend la valeur, Sébastien.
Elle est chantée par Joaquín de Habana, c'est un Cubain. En Aranjuez, con tu amor. C'est la version chantée du concerto.
Junto a ti, al pasar las horas, oh mi amor, hay un rumor de fuentes de cristal que en el jardín parece hablar. En voz bajas a las rosas. Dulce amor, esas hojas secas sin color que barre el viento son recuerdos de un romance de un ayer, huellas de promesas hechas con amor. Que en Aranjuez, entre un hombre y una mujer que siempre se recuerdan. Yo sé bien que en palabras huecas, sin amor, que lleva el viento y que nadie las oyó con atención, pero otras palabras suenan hoy. Hoy mi amor, corazón. Así te quiero hablar si en Aranjuez me esperas. Bien, que en palabras huecas sin amor que lleva el viento y que nadie las oyó con atención, pero otras palabras suenan hoy, mi amor, al corazón. A ti te quiero hablar si en Aranjuez me espera. Si en Aranjuez me esperas,
c'était En Aranjuez con tu amor par Joaquín Laabana, le célèbre concerto d'Aranjuez de Joaquim Rodrigo. On se retrouve juste après une pause avec Pierre Gagnaire et Sébastien Desgardins.
Pour la fin de la balade de Frédéric Taddeï et du chef Pierre Gagnaire, on les rejoint dans le 5e arrondissement de Paris.
Retour à la pâtisserie du Panthéon, la pâtisserie de Sébastien Desgardins, un ancien de la brigade de Pierre Gagnaire. Nous sommes en balade aujourd'hui avec Pierre Gagnaire. Alors, Sébastien, on parlait de la pâtisserie, à quel point elle a changé dans vos vitrines aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a qu'il n'y avait pas il y a 20 ans, il y a 25 ans? Parce qu'il y a toujours les religieuses, il y a toujours les éclairs, il y a toujours les Paris-Brest.
Il n'y a plus de tête de nègre.
Il n'y a plus de tête de nègre, effectivement.
On que tu es remplacé par les merveilleux.
Et quoi d'autre, quoi d'autre?
Ben, nous, c'est-à-dire qu'on fait plus une pâtisserie en réalité comme on pouvait trouver quand j'étais gamin en province. C'est-à-dire que vous venez chez moi, vous allez trouver de la pâtisserie, vous allez trouver de la pâtisserie salée, vous allez trouver de la glacerie. Après, je pense que c'est important de garder des pâtisseries traditionnelles parce que ce sont les bases et ce sont des souvenirs d'enfance pour chaque personne. Parce qu'il y a des gens qui ont mangé un très bon Paris-Brest en compagnie de quelqu'un qu'ils aimaient bien. Par exemple, on a des gens qui se déplacent, qui traversent Paris pour venir manger une barquette au marron, parce qu'on n'est plus beaucoup à la faire.
Il y a les enfants aussi qui sortent de l'école.
Et voilà, après, il y a les enfants. Et la pâtisserie, comme je dis toujours, c'est avant tout, on mange du salé pour manger, on mange de la pâtisserie pour se faire plaisir. Et à partir de
ça, on va pas être d'accord. Il pense qu'on peut se faire plaisir avec le salé aussi.
Oui, non, mais bien sûr qu'on se fait plaisir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on peut manger tous les jours du salé. Manger une pâtisserie tous les jours, c'est pas obligatoire. Voilà. Par contre, on ne peut pas manger que du sucre tous les jours. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bien sûr qu'après, on se fait plaisir en cuisine. Ça, c'est une évidence. La pâtisserie, je veux dire, on le voit sur le dimanche, par exemple. Pourquoi on vend plus de pâtisserie le dimanche? Parce que c'est familial, parce que il y a une idée de partage.
Il y a un retour incroyable, quoi.
Et puis il y a le temps aussi, le temps, c'est oui. Important. On en a moins, on consacre moins de temps à la table qu'autrefois.
Oui.
Et
oui.
Tout à coup, le dimanche, on en consacre un peu plus.
Oui, puis je pense que le dimanche, ça reste une fête de famille et le dessert est important.
Mais plus qu'avant, ça revient.
Plus qu'avant, tout à fait. Revenu, oui, tout à fait.
Ouais. Ouais. Le temps, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui vous obsède, Pierre Gagnaire. Hein. Au fond, vous avez tout aujourd'hui, tout ce dont vous pouviez rêver, il vous manque que le temps.
Oui, oui.
Et encore, vous en rêvez quand même.
Oui, j'en ai, donc j'ai le temps, j'ai le temps de me balader. Aujourd'hui, la preuve. Non, le temps, effectivement, c'est une obsession pour chacun d'entre nous. Qui est lié à la fatigue, qui est lié à... Bon, aujourd'hui, bien sûr, je suis heureux parce que j'ai réussi mon coup, comme on dit, mais j'ai, Il y a combien de concerts que je n'ai pas vus, il y a combien de livres que je n'ai pas lus, il y a combien d'amis qui aujourd'hui sont morts, dont je n'ai pas profité. Voilà, il y a des choses qu'aujourd'hui je sens que mon corps ne peut plus les faire. Et ça, c'est assez récent. Voilà, j'ai eu la chance de faire quelques très beaux voyages dans le désert. Il y a deux raisons pour lesquelles c'est mort, parce que le désert, malheureusement, aujourd'hui, est infesté par des ondes malsaines. Et puis parce que physiquement, je sais que je ne pourrais plus le faire. Voilà. Parce que même si je suis en forme,
Le travail de la pâtisserie aussi est rythmé par le temps, Sébastien.
Énormément.
Est-ce que vous ne vous levez pas aussi tôt que le boulanger, quand même?
Non, on se lève un peu moins tôt, mais quoi que pareil, le métier de boulanger a bien évolué quand même.
À quelle heure êtes-vous debout, là?
Bah, le week-end, on commence à 5h30 la semaine, on commence à 6h.
Quand même, hein. Mais un boulanger qui fait son boulot vraiment dans les règles avec les fours à bois et tout, il commence encore très tôt.
Ah, hein. Il commence encore très tôt,
mais
il y en a plus beaucoup.
Il y en a encore, oui.
C'est avant un boulanger commençait
minuit. Moi, j'avais un grand-père, un cousin, oui, minuit.
Et parce que bon, il n'y avait pas les chambres de fermentation, même au niveau du matériel, je veux dire, les choses ont beaucoup évolué. Oui. On a quand même aujourd'hui, que ce soit en cuisine ou en pâtisserie, je veux dire, il y a quand même une technologie qui a été mise en avance et qui fait gagner du temps à tout le monde, quoi, une régularité et du temps.
Qu'est-ce que vous nous recommandez aujourd'hui comme pâtisserie?
Le passiflore, qui est un entremets à base de sablé breton, mousse chocolat blanc, crème passion et mangue caramélisée. Et après, on a beaucoup de choses. Et c'est encore la période des galettes.
Il y en a qui continuent de manger des galettes après l'épiphanie.
Ouais.
Hein. Et vous, Pierre Gagnard, vous nous recommandez quoi pour déjeuner, vous?
Moi, j'aime bien les salades de fruits. Il le sait, Sébastien. Frais confit, mi-cuit. C'est-à-dire, pamplemousse confit, quelques mangues, des litchis, des oranges, les oranges sanguinaries, les maltaises. C'est bien, j'adore les salades de fruits avec un...
Quelques citrons,
et puis alors, une glace yaourt, là, moi j'adore, avec une petite pointe de citron vert. C'est top.
Ben, je vous remercie tous les deux. Merci Pierre de nous avoir emmenés en balade aujourd'hui. Je remercie votre restaurant, le Gaillard Rive Gauche, hein, rue de Saint-Simon.
Rue de Saint-Simon, oui.
je remercie aussi le nouveau restaurant chez Pierrot, qui se trouve rue du Bac. Merci Sébastien de Gardin. Merci la pâtisserie du Panthéon. Je vous souhaite un bon appétit après cette balade et un bon dimanche. On se retrouve dimanche prochain, 11h, pour une nouvelle balade.